Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir.
De nouveau meurtri par une attaque terroriste. On apprend que 14 militaires ont été tués dans l'ouest du Niger. Un assaut sous forme d'embuscade très violente. Les précisions de Bertrand Galichet. En Israël, les bureaux de vote ferment à l'instant pour la primaire au sein du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. La correspondance sur place de Frédéric Mettezo. Les citoyens attaquent de plus en plus les États en justice pour inaction. Comment lutter contre le réchauffement climatique face à des pouvoirs publics parfois amorphes? Nous poserons la question à celle qui, il y a un an, lançait la pétition « L'affaire du siècle », Marie Toussaint. Elle devait entrer en vigueur le 1er janvier, ce sera finalement le 1er avril, la réforme des APL reportée, mais elle suscite toujours l'inquiétude des associations. Et puis il avait dirigé des monuments comme Rochefort, Depardieu, Michel Bouquet, le metteur en scène Claude Régis nous a quittés à 96 ans, Thierry Fioril nous retracera une vie de théâtre où le premier rôle était souvent joué par le silence. 14 militaires nigériens ont été tués hier au cours d'une attaque terroriste. L'assaut s'est produit dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du Niger, un secteur où 71 soldats nigériens avaient déjà trouvé la mort il y a 2 semaines. Cet affrontement meurtrier au lendemain de celui qui s'est produit dans le nord du Burkina confirme le délitement de la situation dans cette région des trois frontières où les pays concernés sont totalement dépassés. Bertrand Galichet.
L'embuscade qui a coûté la vie aux militaires nigériens a été tendu par des djihadistes lourdement armés, selon le ministère de l'Intérieur à Niamey, qui parle d'une bataille acharnée. L'escorte prise pour cible protégeait des agents de la commission électorale venus préparer des élections générales au Niger, prévues à la fin de l'année prochaine. Les agents électoraux sont sains et saufs. Cette nouvelle attaque, proche de la localité où 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre, prouve que la situation est déjà hors de contrôle dans la région des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Depuis le début de la semaine, les djihadistes ont tué une 50aine de personnes au Burkina, des raids meurtriers que les États concernés sont incapables d'affronter. Le G5 Sahel, censé coordonner la lutte antiterroriste, reste largement théorique, d'où l'inquiétude et l'impatience manifestées par Emmanuel Macron lors de son déplacement la semaine dernière en Côte d'Ivoire et au Niger pour que les chefs d'État de la région se mobilisent aux côtés de la force Barkhane.
Bertrand Galichet. Au moins 30 morts en Centrafrique, mais cette fois lors d'affrontements entre des miliciens et des commerçants hier et ce jeudi. Les heurts se sont produits dans le PK5, un quartier de Bangui majoritairement musulman, l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine. En Israël, les membres du Likoud de Benjamin Netanyahou ont voté toute la journée pour désigner leur chef lors d'une primaire. Le Premier ministre est opposé au député Gideon Saar. Le vainqueur de la primaire sera le candidat de la droite aux législatives israéliennes du 2 mars prochain. Les bureaux de vote sont en train de fermer. Frédéric Mettezo, vous êtes sur place. Netanyahou est donné favori, mais il a quand même fait campagne jusqu'à la dernière minute.
Oui, c'est une habitude chez lui à chaque élection. Jusqu'au dernier moment, il tweete, il écrit sur Facebook, il dramatise. Les médias essaient de vous endormir. Ils veulent que vous restiez à la maison. Ils ne veulent pas que vous alliez voter. Allez voter pour moi. On a même vu Benjamin Netanyahou téléphoner à une dame qui voulait aller au restaurant au lieu d'aller voter et il l'a fait changer d'avis. Il faut dire que ce soir, le Premier ministre israélien joue gros. S'il veut mener la campagne aux prochaines législatives, il doit rester le chef du parti et donc gagner cette primaire. Il n'y a pas de sondage fiable sur ce scrutin interne, ce n'est pas une primaire ouverte, mais une victoire de Gideon Saar serait une énorme surprise, un séisme politique ici. Ce député, ancien ministre de Netanyahou et plus à droite que lui sur la question palestinienne, estime que Bibi, comme on l'appelle, ne peut plus faire gagner son camp. Mais même s'il gagne, il faudra scruter le score de Netanyahou. À moins de 75%, ce sera une victoire très relative.
Frédéric Mettezo, correspondant de Radio France à Jérusalem. Les résultats du vote devraient être connus au petit matin. En Russie, l'opposant Alexei Navalny, brièvement interpellé aujourd'hui, puis relâché. Des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de son organisation anticorruption. Sur une vidéo postée par le principal opposant au Kremlin, on voit la porte être forcée à la perceuse et à la scie électrique. Selon Navalny, cette intervention est liée à son refus répété de supprimer son enquête anticorruption la plus populaire. Une vidéo dans laquelle le Premier ministre Dmitri Medvedev est accusé d'être à la tête d'un empire immobilier. Une vidéo qui culmine à 32 millions de vues sur YouTube. Les Pays-Bas définitivement condamnés pour inaction climatique. La décision est tombée vendredi dernier. La Cour suprême a confirmé un jugement qui ordonne à l'État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas la première procédure judiciaire de ce type. Les procès climatiques se multiplient à l'initiative des citoyens. Nous allons, entre autres, en parler avec notre invitée Marie Toussaint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes militante et écologiste, juriste depuis juillet aussi, eurodéputée Europe Écologie Les Verts partout dans le monde. Les actions en justice contre l'État pour inaction climatique SM aux Pays-Bas donc, mais aussi aux États-Unis, en Colombie, au Pakistan. Est-ce que ça peut débloquer la situation ou est-ce que ce sont des vœux pieux ?
Eh bien, effectivement, ça se multiplie. On compte aujourd'hui plus d'un millier d'actions climatiques à travers le monde. Alors attention, quand je parle d'un millier, je parle pas seulement des actions des citoyens contre les États, mais des actions en règle générale, également celles qui sont menées par les entreprises contre les États, justement parce que les États essayent de se battre pour le climat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la diplomatie internationale ne parvient pas, malgré les COP et notamment l'accord de Paris, à mettre la planète sur une route qui permet de préserver l'humanité du réchauffement climatique et des impacts du réchauffement climatique. Et les actions des citoyens visent simplement à faire en sorte que les États agissent. Et cette décision de la Cour néerlandaise est extrêmement importante, notamment pour les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la France, parce qu'effectivement, les juges ont jugé qu'il était obligatoire, qu'il était légal aujourd'hui d'agir pour le climat.
Et vous êtes vous-même d'ailleurs à l'origine d'une pétition qui avait fait grand bruit, qui fait toujours d'ailleurs grand bruit. Je parle de l'affaire du siècle, c'était le 18 décembre 2018. La question, elle est simple, un an après, où en est-on ?
Eh ben c'est une bonne question parce que l'affaire du siècle a réuni le soutien de 2 300 000 citoyens en quelques semaines. Elle était portée par les associations Notre Affaire à tous, qui est la mienne, mais aussi Greenpeace France, Oxfam France et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et depuis, en réalité, ce qu'on voit, c'est que rien ne s'est passé. Quand je dis rien, c'est-à-dire qu'on est encore en attente de la décision du juge. Ça prend un an et demi avant que le juge ne donne une décision. Donc on a encore quelques mois d'attente. Mais il aurait pu y avoir de la part de l'État français, de la part du gouvernement, une réponse à la hauteur des enjeux. Or, on n'a rien vu comme action climatique qui a été prise, alors qu'il y a des choses simples qui sont possibles. Par exemple, un des plus grands retards de l'État en matière climatique, c'est la rénovation des logements.
Bon, si on vous écoute, donc tout paraît simple. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, l'apathie, le temps de latence, tout du moins le manque d'initiative des États vis-à-vis de l'urgence climatique ?
Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des dirigeants, parmi les dirigeants du monde, il y en a qui bafouent le réchauffement climatique, parfois même qui le nient. Je pense notamment à Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Mais on a aussi beaucoup d'États, notamment en Europe, beaucoup de dirigeants d'États, qui affichent l'écologie, qui affichent la lutte contre le réchauffement climatique comme l'une de leurs priorités. Et pourtant, ils continuent à croire que les lois de l'économie, que la croissance sont au-dessus des lois de la nature et ils ont du mal à se séparer de cette idéologie qui pourtant montre qu'il n'y a plus de progrès sur cette planète, on se bat plus contre la pauvreté, notamment à cause du réchauffement climatique. Eh bien, ils continuent à s'accrocher à cette espèce d'idéologie qui entrave l'action pour le climat et pour l'environnement en général.
Et on pense aussi notamment à la COP25. Qui s'est tenu début décembre à Madrid, comment ne pas en parler. Tout le monde, c'est unanime, a été stupéfait de l'absence de résultats face à l'urgence climatique. Mmh. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'organiser des COP ?
Les COP, c'est important, c'est l'un des seuls moments où les pays les plus pauvres du monde, et notamment les pays des îles qui sont littéralement en voie de disparition du fait de la montée des eaux.
On pense à la Nouvelle-Calédonie notamment, qui le Congrès vient de voter une résolution.
Oui, alors la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les îles des Maldives ou la République des Vanuatu. Je parle de ces îles parce que ce sont aussi des îles qui ont fait, à la fois à la table de la COP25, ça c'était les Tuvalu, et auprès de la Cour pénale internationale, une réclamation, une requête de la reconnaissance de ces graves crimes contre la sûreté de la planète, qu'il est urgent et impératif de reconnaître au plus vite pour remédier à la fois au bloc blocages que l'on observe dans ces COP, dans cette diplomatie internationale, mais aussi pour pouvoir mettre un grand arrêt à ce réchauffement climatique.
Et est-ce que la lutte ne passerait pas d'abord finalement par le lexique hein, de plus en plus d'écologistes et de juristes dont vous, il me semble, souhaitent que le crime d'écocide soit reconnu, la criminalité environnementale, ce serait un début ?
Oui, c'est essentiel. Aujourd'hui en France, on n'a pas reconnu les crimes autonomes contre l'environnement. C'est-à-dire que quand il y a des dommages qui sont causés à la nature, on a le préjudice écologique qui permet d'obtenir réparation quelque part du dommage qui a été fait à la nature, mais on ne pénalise pas ces atteintes à l'environnement. Et parmi les pires atteintes à l'environnement, je pense par exemple à des catastrophes comme Fukushima, mais aussi Bhopal ou un certain nombre de marées noires, on ne tient jamais responsables les personnes, souvent à la tête d'organisations multinationales, mais pas que, parfois aussi des responsables publics, qui sont à l'origine de ces dommages à la planète. Donc on a besoin de toute urgence de reconnaître ces écocides. On peut le faire au niveau international à travers la Cour pénale internationale dont je parlais tout à l'heure, mais on peut déjà le faire en France ou dans l'Union européenne.
Merci Marie Toussaint d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste eurodéputée EELV à l'origine de la pétition « L'affaire du siècle ». Changement de calendrier pour la réforme des allocations logements repoussées au 1er avril, alors qu'elle devait entrer en vigueur le 1er janvier. C'est la Caisse nationale d'allocations familiales qui a demandé ce report pour des raisons techniques. Mais le gouvernement insiste, la réforme est bouclée. Les associations, elles, restent inquiètes. Les critères spécifiques en faveur des plus fragiles pourraient disparaître. C'est ce qu'estime par exemple Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Comment le gouvernement peut-il envisager 1,3 milliard d'économies sur les APL cette année, c'est ce qui est indiqué dans le projet de loi de finances de la Nation, sans qu'il y ait des perdants, et nous en avons identifié à la Fondation, dans le changement de système qui s'opère désormais. Donc nous sommes très inquiets, d'autant que ça intervient après des mesures d'économie hallucinantes sur les APL. On a entendu beaucoup parler des 5 euros, mais après on a gelé leur montant en 2017, on ne les a pas fait évoluer au même rythme que le coût de la vie comme la loi le prévoyait en 2018 et en 2019. On a supprimé l'appel accession à la propriété. Bref, on a fait des économies sur le dos des ménages pauvres et modestes. Et on a peur que cette réforme de la contemporanisation des APL, eh bien, elle puisse aussi fragiliser encore davantage des personnes en difficulté de logement. Le gouvernement nous dit, mais non, mais c'est une mesure de bon sens, prendre davantage des ressources en fonction de leur évolution tous les 3 mois. Nous, on dit, d'accord, mais ça n'est pas qu'une mesure technique, au fond. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a des changements de périmètre, il y a des changements de mode de calcul. Donc, ça devient une mesure sociale. Donc, il faut des correctifs, il faut des aménagements pour ne pas mettre en difficulté encore plus des gens qui sont déjà en difficulté aujourd'hui.
Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre au micro de Catherine Pétillon. Pas de répit pour la grève contre la réforme des retraites. On connaît les prévisions de trafic de la SNCF pour demain et ça s'annonce encore compliqué. 6 TGV et 4 TER sur 10, un Transilien sur 5. Pour les métros, statu quo par rapport à hier avec toujours 5 lignes fermées. Du côté des RER, à noter une grande première depuis le 5 décembre. Les RER A et B circuleront toute la journée avec un train sur deux. Il était une sorte de faucon au regard dur pour Gérard Depardieu, le metteur en scène. Claude Régis, nous a quitté la nuit dernière à 96 ans, emportant avec lui son exigence, sa vision singulière de faire le théâtre. De la même façon que Soulages travaille sur le noir en peinture, Régis se plaisait à jouer sur le silence dans des mises en scène intimes, Thierry Fioril.
Le théâtre de Claude Régis se vivait comme une expérience quasi spirituelle, surtout ces derniers temps. Sentant la fin proche, très influencé par la culture japonaise, il mettait le spectateur en condition de vivre le moment intérieurement. Obscurité, long silence, lenteur. Cet amour du théâtre, il l'a vécu contre la volonté de ses parents. Son père officier à Montauban lui impose de faire son droit, mais Claude Régis suit sa voie. Au début des années 50, il monte Lorca, Pirandello, puis dirige les grands acteurs de son époque, Jean Rochefort, Delphine Seyrig ou Michel Bouquet. Féru d'auteur contemporain, il adapte Yon Foss, Marguerite Duras. Et alors que Gérard Depardieu n'a fait que quelques petits rôles au cinéma, Claude Régis le fait monter sur scène dans 6 pièces entre 1972 et 77. Une sorte de faucon au regard dur et au caractère radical, dira de lui Depardieu. Claude Régis avait coutume de dire que le spectacle n'avait lieu que dans l'imagination du public. Il laisse de fascinantes images mentales.
Thierry Fioril. Et puis nous avons aussi appris la mort du célèbre ténor et chef d'orchestre allemand Peter Schreier. À 84 ans, il était considéré comme l'un des meilleurs ténors du XXe siècle. Il était aussi l'une des rares vedettes internationales originaires de l'ex-Allemagne de l'Est communiste. Un mot pour qualifier la météo de demain, maussade, un ciel couvert à l'exception du Méditerranéen et des Pyrénées. Les températures maximales oscilleront entre 8 et 13 degrés sur tout le pays, avec des pointes jusqu'à 15 à 16 degrés au pied des Pyrénées et en Corse. C'est la fin de ce journal préparé avec l'aide de Brice Garcia, à la technique Louis Bardinet.